Le fantôme de la Villa Estève. Les aventures du professeur Bajolin. De Jacques et Futrel. Traduction Michel et Puy. Le fantôme de la Villa Estève. Le journaliste, Hatch, assis à côté du bureau de son rédacteur en chef, attendait patiemment, en fumant d'innombrables cigarettes, que son directeur eût achevé de revoir les épreuves d'un article urgent. Le garçon de l'imprimerie était là. Il était l'heure de mettre sous presse, de sorte que le reporter renommé, qu'était Hatch, devait lui-même attendre. Enfin, le rédacteur en chef rendit le papier au garçon, poussa un ouf de soulagement, regarda sa montre et s'écria « Le journal paraîtra à l'heure, ça va. Eh, vous êtes là, Hatch, quoi de neuf ?»« C'est à moi de dire quoi de neuf. Ne m'avez-vous pas fait demander, si je me souviens bien, il y a une demi-heure ?»« Ah, pardon, oui, j'oubliais. Que vous êtes gentil. » « Avez-vous peur des fantômes ?» Habitué aux distractions de son chef, le journaliste ne sourcilla pas et répondit flegmatiquement « Peur des fantômes ? Je ne peux pas savoir, je n'en ai jamais rencontré. »« Eh bien, je peux vous en procurer l'occasion, si vous voulez. » Ça a l'air d'un excellent fait divers, mais il y a peut-être mieux que cela encore. Voici quelques indications sur ce papier. Il s'agit d'une maison hantée. Personne ne peut y habiter. On y entend toutes sortes de bruits, des rires, des gémissements, mais généralement, ces maisons hantées sont de vieux châteaux ou des masures. Ici, c'est une villa moderne et qui appartient au banquier, Ernest Estève. Vous feriez peut-être bien d'aller voir ce qui en est. Si ça vous paraît intéressant, ça nous ferait un article sensationnel pour dimanche. Mais n'allez-vous pas avoir peur ? Je n'ai jamais entendu dire qu'un fantôme ait assommé quelqu'un, répliqua Hatch en souriant. Mais si celui-ci veut se battre avec moi, ça fera l'article encore plus palpitant. C'est de la sorte que débuta la fameuse affaire de la Villa Estève qui fit tant de bruit dans le pays il y a quelques années. 3 heures après la conversation que nous avons relatée plus haut, Hatch arrivait à la villa qui s'élevait au bord du lac, à quelque distance du village de Forges. La maison en question était un solide bâtiment de 2 étages, bâti sur un petit plateau qui surplombait le lac d'une 12 mètres. Le jardin occupait ce minuscule plateau et à son extrémité s'arrêtait à pic au-dessus d'une étroite plage de gros galets. Une végétation touffue de buissons et de petits arbres soutenait ce terre-plein. Une route partant du village conduisait à la villa qui s'apercevait de loin grâce à sa surélévation. Sans interroger personne, Hatch se dirigea vers la villa. Il pensait trouver un gardien ou quelqu'un, en tout cas, pour lui faire visiter l'immeuble. Mais il n'aperçut personne. Le jardin n'était pas entretenu, les volets étaient clos, tout portait des marques d'abandon très anciens. Il frappa vigoureusement à la porte. Point de réponse, naturellement. Il essaya les uns après les autres les volets du rez-de-chaussée, sans résultat. Mais derrière la maison, il aperçut une porte de service à laquelle il frappa également, puis il en essaya le loquet. À sa grande surprise, elle s'ouvrit, il entra. Il se trouva dans une cuisine humide, froide et obscure. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il s'avança, traversa un corridor et entra dans une salle à manger qui avait dû être très belle, mais était alors dépourvue de meubles, remplie de poussière. Elle sentait le moisi et le renfermé. De la porte de cette pièce et à la vague clarté qui filtrait à travers les volets, le journaliste se mit à étudier la configuration intérieure de la villa. À sa gauche se trouvait une porte donnant accès à une arrière-cuisine qui communiquait avec la cuisine même qu'il venait de quitter. Droit devant lui, à l'intérieur de la salle à manger, une grande glace fixée au mur entre 2 fenêtres. Une autre glace, de très grande dimension également, se trouvait de l'autre côté de la chambre. De cette pièce, il passa dans une autre pièce séparée de la première par une large baie. Les 2 pièces semblaient n'en faire qu'une maintenant que les tentures de la baie étaient enlevées. En y entrant, il avait la cheminée à sa gauche, une glace en face de lui et l'autre glace à sa droite. Près de cette dernière glace se trouvait une porte un peu plus grande qu'on ne s'y serait attendu et qui avait dû se fermer au moyen de couloirs ou de glissières. Au-delà, c'était l'antichambre. Au bout de cette antichambre, un hall du fond duquel partait un escalier de chêne. Dans l'antichambre s'ouvrait la porte d'un salon, tout lambrissé d'or, mais écœurant d'odeurs de moisi. Dans le hall s'ouvraient encore deux pièces, une bibliothèque sans doute, et un fumoir ou boudoir, on ne pouvait deviner, et partout de la poussière, rien que de la poussière. Il monta au premier étage, composé d'une série de chambres à coucher et de cabinets de toilette. Rien de particulier, sauf encore de grandes glaces. En redescendant, il s'arrêta au milieu de l'escalier et considéra longuement le salon et la double salle à manger qu'on apercevait presque entièrement de là grâce à leurs larges portes. Il ne remarqua nulle part quelque chose d'anormal et se borna à bien fixer dans sa mémoire la disposition de toutes ces pièces de façon à pouvoir se diriger facilement dans la maison, même dans l'obscurité, si cela devenait jamais nécessaire. Il ressortit enfin et alla voir les dépendances. En effet, à une cinquantaine de mètres de la villa, un bâtiment contenait des écuries, un garage et au premier, des chambres de domestiques. Hutch passa partout, mais n'aperçut rien d'insolite. Il n'y a là rien d'effrayant, se dit-il en reprenant la direction du village. Il était 3 heures de l'après-midi. Le journaliste décida de procéder à une rapide enquête, puis de revenir le soir même à la villa. Il eut vite fait de prendre contact avec le gendarme de l'endroit, vieux brave homme de 60 ans, qui représentait à lui seul le corps de police et savait toutes les histoires du village. Il parut charmé de la visite de Hatch et de l'occasion d'être interviewé par l'envoyé d'un grand journal. Aussi se laissa-t-il facilement offrir une bonne bouteille dans la salle basse du meilleur café du village. Il parla pendant plus d'une heure. De toutes les digressions, futilités et inutilités que rapporta le gendarme, Hatch retint quelques faits essentiels. D'abord, la villa était inhabitée depuis 5 ans, soit depuis la mort du père d'Ernest Estève, propriétaire actuel. Mais 15 jours avant la visite de Hatch, M. Estève était venu avec un entrepreneur. « Nous avons tous pensé alors, dit le gendarme, que M. Estève, qui doit se marier prochainement, voulait faire mettre la villa en état pour y venir passer quelque temps en été. Ah, et avec qui doit-il se marier ? Avec une demoiselle Catherine Évrard, fille d'un banquier de Genève. On dit qu'il la courtisait déjà avant la mort de son père, et depuis qu'elle est revenue au pays, il la voit beaucoup. Vous pensez donc qu'ils avaient l'intention de venir habiter ici ? En tout cas en été, mais je crains que cette histoire de fantôme n'ait tout gâté. Ah, ce fantôme ! Répliqua le journaliste. « Mais d'abord, dites-moi, les préparations étaient-elles commencées quand ça a débuté ?»« On n'avait encore rien fait à l'intérieur. Un jardinier avait commencé à tailler les arbres, mais tout est arrêté. »« Eh bien, donnez-moi donc quelques détails. »« Ah !» dit le gendarme en se grattant le menton. « C'est que c'est si bizarre, si incroyable. On a envie de s'en moquer, entre hommes, n'est-ce pas, et devant un bon verre, mais tout de même... il y a quelque chose. Contez-moi ça. Eh bien, peu de jours après sa visite, M. Estève envoya ici quelques ouvriers, des Italiens pour la plupart, et ceux-ci décidèrent de coucher dans la maison même jusqu'à ce qu'ils aient réparé les gouttières des communs où ils devaient loger, au-dessus des écuries, vous comprenez. Ils arrivèrent assez tard dans la journée et ne firent guère autre chose que de s'installer dans les chambres du premier de la villa. Vers 1 heure du matin, ils furent réveillés par des bruits étranges qui partaient du rez-de-chaussée. Des grincements, des gémissements, des grognements, des rires. Ils descendirent naturellement pour voir ce que c'était. Alors, ils aperçurent le fantôme qui était dans le hall, disent les uns. Dans la bibliothèque, affirment les autres. En tout cas, il était là, et toute la bande d'ouvriers a décampé lestement. Ils ont passé le reste de la nuit sous les arbres et le lendemain ont repris leurs effets et sont partis pour ne plus revenir, je pense. De toute façon, on n'a plus entendu parler d'eux. Mais comment était donc ce fameux fantôme? Ils disent que c'était un spectre d'homme d'environ 3 mètres de haut et tout brillant, des pieds à la tête, comme s'il brûlait. Il avait un grand couteau à la main et les en a menacés. Ils ne se sont pas attardés à discuter, mais ont pris leurs jambes à leur cou, comme on dit. Ils ajoutent qu'ils ont entendu le spectre éclater de rire pendant qu'ils s'enfuyaient. « En effet, dit le journaliste, ça devait être drôle de voir détaler cette bande de lièvres. Mais dites-moi, personne d'autre d'ici n'a-t-il vu le fantôme ?»« Non, les gens sont assez effrayés, car on n'a jamais eu d'apparition, de spectre ou de choses de ce genre chez nous. Quant à moi, j'y monte faire un tour chaque après-midi et n'ai jamais rien rencontré d'anormal, mais je n'y ai pas encore été de nuit. Mon service me retient au village, se hâta-t-il d'expliquer. Un spectre d'homme avec un poignard, répéta Hatch en souriant. Et qui est tout brillant et lumineux, des pieds à la tête. C'est palpitant. Mais dites-moi, vous savez qu'un fantôme qui sait son métier n'apparaît jamais que dans les endroits où un meurtre a été commis. N'y a-t-il pas eu d'assassinat par là autour? Il me faut absolument un assassinat. Le bon vieux gendarme consentit à sourire des plaisanteries du journaliste, mais au fond, il ne semblait pas rassuré du tout. Après quelques instants de réflexion, il reprit « Je n'étais encore qu'un tout petit garçon, de sorte que je ne me souviens pas. C'est vague et comme un rêve, mais certainement j'ai dû entendre parler de quelques meurtres accomplis autrefois par là. Voyons, il était question aussi de bijoux et de diamants. Cela a dû arriver en hiver, pendant l'absence des Estève. Mais je ne me rappelle pas autre chose. Essayez, dit Hatch. Non, je ne peux pas. Si je me rappelle un chiffre, 1 million, on disait que ça valait 1 million. Mais non, je ne me souviens pas. Vous savez, il y a plus de 50 ans. Je vois, dit le journaliste. Ce soir-là, à 9 heures, par une nuit fort obscure, Hatch revint à la villa. Mais à 1 heure du matin, il redescendait au village en courant et en jetant de fréquents regards derrière lui. Il était livide et ses mains tremblaient. Une fois rentré dans la chambre qu'il avait retenue au petit hôtel du village, il alluma la lampe et se jeta dans un fauteuil, les yeux fixes. Il resta là jusqu'à l'aube. Il avait vu le fantôme. Le lendemain, à 10 heures du matin, le journaliste Hatch sonnait à la porte du professeur Bajolin, son protecteur et ami, qui l'avait aidé à plusieurs reprises à résoudre de sensationnels problèmes policiers. Hatch était encore tout pâle. L'altération de ses traits marquait son anxiété profonde. Le professeur lui jeta un vif regard à travers le verre épais de ses lunettes, puis lui dit simplement « Eh bien, mon ami !»« J'ai un peu honte, professeur, à venir vous trouver, avoua le journaliste, mais je suis en présence d'une mystérieuse affaire. Asseyez-vous et contez-moi cela. » Hatch prit un siège. « Je viens d'éprouver une grande peur, dit-il, une vraie panique. » Et je suis venu vous demander de m'expliquer ce qui l'a causé. Ne vous frappez pas, dit Monsieur Bajolin. De quoi s'agit-il? Alors le journaliste dit tout ce qu'il savait de la villa hantée, raconta son exploration de la veille, sa conversation avec le gendarme du village de Forge, la vieille histoire d'un meurtre et d'un vol de bijoux, et enfin le mariage du banquier Estève. Le savant l'écouta avec la plus grande attention. Il était 9 heures du soir, « lorsque je revins à la villa, » poursuivit Hatch. « Je m'attendais bien à quelque chose, mais pas à quelque chose d'aussi extraordinaire. « Allons, allons, continuez, » fit le professeur. L'obscurité était complète dans la maison. Je m'installai sur l'escalier parce qu'on m'avait dit que le fantôme avait été aperçu de là par les ouvriers. Je présumais qu'il s'agissait de quelque singulier reflet de lune, de quelque ombre déformée des choses, enfin de quelque aspect insolite, mais explicable, de sorte que j'attendais assez calmement. Je ne suis pas très impressionnable, c'est-à-dire je ne l'étais pas jusqu'à cette nuit. Je n'avais point pris de lumière, l'attente me parut interminable. Je m'étais posté le dos à la paroi de façon à apercevoir les entrées de la bibliothèque et du hall. Il y avait des heures que j'étais là, immobile dans la nuit, lorsque j'entendis un léger bruit qui me fit sursauter, mais que j'attribuais au léger crissement d'un rat en train de ronger du bois. Mais, un instant après, s'éleva le plus affreux cri qui puisse frapper une oreille humaine. Ce n'était pas un gémissement ni un appel, mais un cri, un simple cri. Puis, comme j'essayais de reprendre tout mon sang-froid, une forme brillante, lumineuse, blanche, sortit du néant, juste devant moi, dans la direction du hall. Elle parut et s'immobilisa là. Hatch s'arrêta une seconde, comme pour reprendre son souffle, et le professeur changea de position dans son fauteuil. « Cela avait, reprit le journaliste, l'apparence d'un homme de très grande taille. Ne me prenez pas pour un sot que l'émotion pousse aux exagérations. Non, cette apparition était non seulement blanche, mais comme lumineuse par elle-même, d'une lumière étrange, irréelle, et qui n'éclairait rien autour d'elle. Elle devint de plus en plus brillante. La chose n'avait pas de face, mais une tête. Puis un bras se dégagea du corps et brandit un poignard blanc et lumineux aussi. Déjà, je me sentais ébranlé, les nerfs à vif, lâchement épouvanté, je l'avoue, non de ce que je voyais, mais de ce qu'il y avait de surnaturel à son origine. Mais alors, la chose éleva son autre bras et du bout du doigt écrivit là, devant moi, en l'air, un mot. « Danger ». « Était-ce une écriture d'homme ou de femme ?» interrogea le professeur. Cette simple question, faite sur le ton le plus naturel, eut le don de calmer l'anxiété du journaliste et de le ramener au sentiment de la réalité. Il sourit. « Ma foi, dit-il, je n'ai pas remarqué. Bon, continuez. Je ne me suis jamais cru lâche, et je ne suis pas non plus un enfant qui s'effraye devant des choses que la froide raison juge impossibles. Je tâchais donc de me maîtriser et d'agir. Si la chose était une personne humaine, je n'avais qu'à me préparer à la lutte. Si ce n'était pas une personne, je ne courais aucun risque. Je descendis donc les quelques marches d'escalier qui me séparaient du hall, et toujours la chose continuait à agiter son poignard d'une façon menaçante dans ma direction. Je m'élançai sur elle, je dus crier, du moins il me semble avoir entendu un écho de ma propre voix se répercuter dans la maison déserte. Mais, quoi qu'il en soit, Hatch s'interrompit de nouveau, il faisait visiblement un grand effort sur lui-même pour rester calme à l'évocation de son aventure. Le professeur le regardait froidement. « Alors, reprit-il, la chose disparut au moment précis où je portais mes mains sur elle. Je m'attendais à un coup de poignard. Au lieu de cela, je ne vis plus devant moi que la moitié de l'apparition. Un cri s'éleva comme au loin, l'autre moitié s'évanouit et je m'agitais dans le vide. Là où j'avais vu la chose, il n'y avait rien. Mon élan avait été si fort que je dépassais l'endroit où se trouvait la chose et je me trouvais au beau milieu d'une chambre vide que je ne déterminais pas tout de suite. Je vois maintenant que ce devait être la bibliothèque. Mais au moment même, j'étais fou de peur. Je me précipitai à une fenêtre, en ouvris fébrilement les volets rouillés et sautai dehors. Je m'élançai au pas de course dans la direction du village et ne m'arrêtai qu'au seuil de ma chambre d'hôtel. Je tremblais de tous mes membres. Pour tout l'or du monde, je ne serais pas retourné à la villa. Le professeur se frottait paresseusement les mains en considérant son interlocuteur encore tout agité. Ainsi, dit enfin M. Bajolin, après avoir bondi sur l'apparition, elle disparut, et vous vous trouvâtes dans la bibliothèque. Oui. De sorte que, partant du bas des escaliers, vous avez traversé tout le hall. Oui. Lorsque vous étiez venu dans l'après-midi, vous aviez laissé la porte de la bibliothèque ouverte ou fermée? Fermée. Il y eut un silence. Avez-vous senti quelque odeur étrange ou bizarre? Non. Vous estimez que la chose, comme vous l'appelez, se trouvait vers la porte de la bibliothèque? Oui. Il est bien regrettable que vous n'ayez pas remarqué si l'écriture était d'un homme ou d'une femme. Je crois que dans de telles circonstances, je suis excusable de n'y avoir pas pensé, dit le journaliste. Vous dites que vous avez entendu un léger bruit ou craquement juste avant l'apparition de la chose, quelque chose comme un grignotement de rat. Vous êtes-vous rendu compte de ce que c'était? Non. Ce n'était pas un cri. Non. Et il y a 5 ans que la maison est inhabitée, dit le savant comme en se parlant à lui-même. Oh, à quelle distance du lac la villa se trouve-t-elle? À quelques mètres, mais sur une éminence, de sorte qu'il faut descendre un petit sentier presque à pic pour aller du bout du jardin au bord de l'eau. Bien, très bien. Et lorsque vous avez visité la maison pendant la journée, avez-vous remarqué si les glaces étaient couvertes de poussière? Je n'y ai pas spécialement fait attention, mais je présume qu'elles étaient poussiéreuses et ternies, comme tout le reste. Oui, cependant, n'auriez-vous pas remarqué le fait si l'une d'elles n'avait pas été poussiéreuse? Je crois que je l'aurais remarqué, mais je ne puis l'affirmer. Le professeur Bajolin resta longtemps pensif, les yeux au plafond, puis il demanda tout à coup « Avez-vous vu Monsieur Estève, le propriétaire ?»« Non. Tâchez de le joindre et faites-lui dire tout ce qu'il sait sur la vieille histoire ou légende de meurtre et de vol du temps passé. Ce serait assez drôle si on découvrait qu'une quantité de bijoux soit cachée par là, hein ? Ah, ce serait en effet très drôle. Et qui est cette demoiselle Évrard, la fiancée de Monsieur Estève ? la fille d'un banquier d'ici. Elle est, dit-on, à Paris en ce moment. Ayez des renseignements sur elle, son caractère, sa famille, et lorsque vous aurez vu Monsieur Estève, revenez me trouver. Et puis, voyez si vous pouvez vous procurer des détails sur l'histoire de la famille Estève également. Y a-t-il jamais eu des procès entre eux, des questions d'héritage? Enfin, procurez-vous tous les éléments d'une enquête soignée, vous êtes très fort pour cela. Adieu, mon ami. Hatch sortit de chez le professeur, passablement rasséréné. Il commença immédiatement les démarches que M. Bajolin lui avait conseillées. Il sentait qu'avec l'appui du savant, on arriverait à découvrir la clé du mystère. Cette même nuit, le fantôme fit encore des siennes. Le gendarme du village, accompagné d'une demi-douzaine de paysans armés jusqu'aux dents, s'était rendu à la villa Estève. Du dehors, ils aperçurent le spectre lumineux qui les menaça de son poignard et lança des cris inhumains. « Haut les mains où je tire !» cria courageusement le représentant de la force publique. Un rire satanique seul lui répondit, et tout à coup, il sentit quelque chose de tiède qui se répandait sur sa face. Ses compagnons d'eux-mêmes. Ils s'épongèrent de leurs mouchoirs et se retirèrent à l'extrémité du jardin. Là, à la lueur de leurs lanternes, ils virent que leurs mouchoirs et leurs mains étaient rouges de sang. Alors, ils s'enfuirent en désordre. Lorsque Hatch fut introduit chez le banquier Estève, celui-ci venait de déjeuner avec son cousin, Georges Estève, qu'il présenta au journaliste. Hatch se rappela alors que ce cousin, intrépide danseur, brillant causeur, était très répandu dans les cercles mondains. On avait beaucoup parlé de lui, de son luxe, de ses prodigalités l'hiver précédent, et même, Hatch croyait bien ne pas se tromper, on avait parlé de ses assiduités auprès de cette jeune fille, Catherine Evrard, l'actuelle fiancée du banquier. Hatch, qui connaissait déjà Ernest Estève, considéra curieusement ce cousin qu'il n'avait jamais encore eu l'occasion de rencontrer. Il avait la pâleur et les traits tirés d'un homme qui commet des excès, mais encore, il avait les manières et toute l'allure d'un gentleman. Après avoir présenté son cousin au journaliste, Ernest Estève demanda gaiement sur quel sujet il avait l'honneur d'être interviewé. « Dois-je vous parler de mon prochain mariage ou de ma maison hantée ?»« Des deux, si vous le voulez bien, » répondit Hatch. Ernest Estève s'exécuta gentiment. Oui, il s'était fiancé, il y avait un mois, avec la fille du richissime Évrard. Le mariage devait avoir lieu dans 3 mois, mais la date exacte n'était pas fixée. Mademoiselle Catherine Évrard était en ce moment à Paris où elle se faisait confectionner son trousseau. « Et je suppose que vous aviez l'intention d'aller passer l'été à votre villa de Forges ?» demanda le journaliste. « Oui, j'avais l'intention de faire quelques réparations et transformations à cette maison, de la meubler et d'y venir passer quelques semaines d'été. Mais un fantôme a pris ombrage, paraît-il, de ses innocentes intentions et n'en veut pas. Qu'y faire? Avez-vous entendu parler de cette affaire ? » conclut-il en souriant. « Mieux que ça, dit Hatch, j'ai vu le fantôme. « Vraiment ?» Georges Estève se montra tout aussi étonné que le banquier à cette information inattendue. Il se pencha et, plein d'intérêt, questionna à son tour le journaliste. Celui-ci conta alors par le menu tout ce qui lui était arrivé dans la maison hantée. Ils l'écoutaient tous les deux avec la plus grande attention. « Extraordinaire !» s'écria le banquier lorsque Hatch eut achevé. « Mais comment expliquez-vous cela ?»« Je ne l'explique pas. » dit le journaliste. « Je raconte ce qui m'est arrivé, simplement. Et pour le moment, je suis en plein mystère. Je ne suis pas un enfant, je suis sûr de ne pas être le jouet d'une illusion ou de mon imagination. Et c'est tout. Ce doit être quelque mystification, » dit le cousin du banquier. « Si c'en est une, c'est bien la plus habile que j'ai vue de ma vie. » Ensuite, la conversation dévia sur la vieille légende des bijoux volés. Hatch put questionner le banquier qui lui répondit fort aimablement. C'est une très ancienne affaire, une de ces traditions de famille qui paraissent fort romanesques aux jeunes, mais qui reposent sur des fondements réels, authentiques. Actuellement, dans notre génération, on n'y croit plus guère, mais je sais que mes propres parents y ajoutaient foi. Je crois d'ailleurs que mon cousin, Georges, en sait beaucoup plus que moi. Sa mère aimait beaucoup à en parler et elle avait elle-même reçu d'importantes confidences de ma grand-mère. Ainsi invité à prendre la parole, Georges Estève alluma une cigarette et dit « Je vous dirai volontiers tout ce que je sais. En effet, Ma mère me contait souvent cette tragique histoire arrivée à mon grand-père. Celui-ci, très riche, possédait une magnifique collection de bijoux et de pierres précieuses, dont plusieurs avaient en outre une valeur historique. C'était l'héritage d'une très ancienne famille anglaise dont une descendante s'était alliée à la nôtre. Bref, en ce temps où l'on n'avait pas encore inventé le système des coffres particuliers dans les banques, la garde d'un tel trésor était un gros problème. Mon grand-père avait fait bâtir une maison de campagne à Forge, sur les bords du lac, c'est la villa actuelle, qui n'a jamais été transformée qu'à l'intérieur. Alors mon grand-père conçut l'idée, assez bizarre pour nous, moderne, de cacher ses bijoux dans cette villa. La question pour lui était que personne ne le sût. Un soir, il prit donc seul et incognito une voiture, les chemins de fer n'existaient pas, et se fit conduire à sa maison des champs, à Forge. Il avait l'intention d'y cacher ses bijoux et de revenir encore dans la même nuit, en allant louer une autre voiture en un autre village, assez éloigné, afin de dépister toute curiosité possible. La voiture d'ici le déposa à Forge, mais c'est tout ce qu'on n'en sut jamais, car il ne revint pas et on le trouva le lendemain inanimé au pied de la véranda de sa maison de campagne. Il avait une fracture du crâne et il expira dans la journée sans avoir repris connaissance. Le narrateur s'arrêta une seconde pour allumer une deuxième cigarette. « D'autre part, reprit-il, un homme, un inconnu, fut trouvé mort, assommé, à l'intérieur de la maison. Il avait l'aspect assez misérable, mais nul ne l'avait aperçu dans le pays et les enquêtes les plus minutieuses ne révélèrent jamais son identité. On fit naturellement toutes sortes de suppositions. La plus vraisemblable était qu'un rôdeur s'était abrité dans la maison pour la nuit, car on était au plus fort de l'hiver, que cet individu avait vu mon grand-père sortir les bijoux de son sac, qu'il l'avait attaqué, que mon grand-père l'avait assommé d'un coup de matraque, mais que blessé lui-même, il n'avait eu la force que de sortir de la maison pour aller tomber près de la véranda où on l'avait trouvé. « Mais les bijoux ? » interrogea le journaliste. « Les bijoux ? Disparus, envolés, on n'en trouva pas. » « Alors, ne devrait-on pas supposer que les rôdeurs étaient deux ?» et que le second réussit à s'enfuir avec le trésor, abandonnant son camarade mort dans la maison. On a pensé à cela, mais un fait assez clair s'opposait, dit-on, à cette interprétation du mystère, c'est qu'il y avait une épaisse couche de belle neige sur le sol, et qu'on a bien relevé les traces de pas de l'individu et de mon grand-père, se dirigeant tous deux vers la maison, mais qu'on n'aperçut aucune empreinte de pas sortant de la villa. Il y eut un long silence. Le banquier sirotait pensivement son café. « Tout cela tendrait à prouver, dit-il enfin, que le trésor était déjà dans sa cachette quand commença la lutte. » Georges Estève sourit. « Certes, dit-il, et on l'a cherché, comme vous pouvez le penser. Les murs ont été sondés, le sol des caves a été remué, les parquets enlevés, enfin tout a été bouleversé, et cela à de nombreuses reprises pendant 20 ans. Et puis, on s'est lassé, les générations nouvelles ont eu autre chose à penser. Il vaudrait peut-être la peine de faire de nouvelles fouilles, dit Ernest Estève. Oh, croyez-vous, fit son cousin en riant. Peut-être après tout, mais quand on pense à tout ce qui a été fait, il n'est peut-être pas de pierre des quatre murs qui n'ait été sondée, et tout le reste a été changé. En effet, fit le banquier. Mais maintenant, cette histoire de fantôme, j'aimerais en avoir le cœur net. « Voyons, que diriez-vous d'une expédition nocturne là-bas, tous ensemble, cette nuit ?»« J'adorerais ça, » dit le cousin Georges. « Mais je suis pris ce soir. J'ai promis d'aller au bal annuel des officiers aviateurs. »« Et vous, Hatch ?» demanda Ernest Estève. « j'en suis, à condition de n'être pas seul. »« Eh bien, nous prendrons le gendarme de Forge avec nous. Ça va pour ce soir ?»« Entendu, » répondit Hatch. Ils convinrent de l'heure de leur rencontre, puis le journaliste se hâta d'aller rendre compte au professeur de ce qu'il avait appris. Le savant écouta attentivement tout en surveillant une expérience de chimie. « Pouvez-vous venir avec nous cette nuit ?» lui demanda Hatch en terminant. « Non, » répondit M. Bajolin, « je dois faire ce soir une conférence devant une société scientifique afin de démontrer que Bertholo n'était pas fou, car vous ne sauriez imaginer les imbécilités que commettent nos jeunes chimistes modernes, uniquement pour se faire remarquer. « Alors demain soir, » insista le journaliste. « Non, après-demain. » Hatch dut se contenter de cette promesse Il prévoyait d'ailleurs qu'après ce délai, le professeur lui apporterait l'explication du mystère, car il avait une foi entière en son génie. En attendant, Hatch se rendit au rendez-vous convenu et débarqua à Forge vers 9 heures du soir en compagnie du banquier Estève. Ils allèrent aussitôt chez le gendarme. « Voulez-vous venir avec nous ? » lui demandèrent-ils. « Avec vous deux, oui, » dit le brave homme. « Oh, mais ce fantôme, je l'aurai sous les verrous. »« Attention, » dit le banquier, « ne tirez pas sans nécessité. Il y a quelques machinations là-dessous, nous le pensons bien, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de crime commis. « je l'aurai, nous l'aurons !» s'écria le bon policier, qui se souvenait du sang qu'il avait reçu à la figure. « Et je ne jurerai pas qu'il n'y ait pas eu de crime. » Un peu après 10 heures du soir, les trois hommes pénétrèrent dans la villa et s'installèrent sur les marches de l'escalier d'où Hatch avait aperçu le fantôme. Le gendarme s'agitait nerveusement de temps en temps, mais ses compagnons ne se préoccupaient pas de lui, ils attendaient l'apparition. Elle vint enfin. Il y eut d'abord ce léger craquement ou crissement mystérieux que Hatch avait entendu. Puis soudain, une forme humaine, brillante, parut et s'immobilisa devant eux. Alors elle leva la main et du bout du doigt se mit à tracer des lettres lumineuses et qui restaient lumineuses en l'air. Ces lettres formèrent le mot « mort ». Ce mot brillant flotta devant les yeux des trois spectateurs stupéfaits. Malgré tout, Hatch essaya de se maîtriser et de discerner s'il était en présence d'une écriture d'homme ou de femme. Il voyait le mot fatidique devant lui comme sur un tableau noir, mais il était difficile de se rendre compte de l'allure de l'écriture. Hatch se rappela aussi que le professeur lui avait demandé s'il avait perçu une odeur particulière, mais en vérité, il ne sentait rien. Tout à coup, le gendarme qui se tenait derrière lui s'agita. Un coup de feu claqua à son oreille. Un rire sardonique s'éleva aussitôt tout près d'eux. L'apparition brandit encore son poignard, puis soudain s'évanouit. Les trois hommes se précipitèrent en avant, mais il n'y avait rien au bas des escaliers, rien dans le hall, rien dans les pièces du rez-de-chaussée, rien. Ils sortirent de la maison et décidèrent de retourner au village. Le banquier n'avait pas prononcé une parole depuis que le fantôme était apparu. Mais tout à coup, il se tourna vers le gendarme. « Je vous avais dit de ne pas tirer. J'étais dans l'exercice de mes fonctions, » répondit le brave homme d'un ton bourru. « En tout cas, votre balle n'a fait de mal à personne, » fit remarquer Hatch. « Je n'ai jamais manqué mon coup de si près, » s'écria le policier. « Ce fantôme n'existe pas. » Monsieur Estève ne répondit rien. Il réfléchissait. C'était un homme de sang-froid et incapable de prendre des apparences pour des réalités. Mais cette fois, il se sentait pris, subjugué. Il ne pouvait s'expliquer ce qu'il avait vu. Une fois rentré dans la petite chambre d'hôtel du village, il se posta devant Hatch et lui demanda à brûle-pourpoint « Avez-vous la moindre idée de la façon dont cela peut se produire ?» Hatch secoua la tête négativement. « Assurément, je ne crois pas aux âmes errantes, aux spectres des légendes, mais... « Ceci, qu'est-ce donc ? Je regrette d'être venu. Je n'ai plus aucun désir de faire réparer cette maison. » Ils dormirent fort mal et prirent le lendemain matin le premier train pour la ville. En quittant le journaliste, M. Estève dit encore « Je voudrais éclaircir ce mystère. J'ai pensé à un homme qui en vérité n'a peur de rien. C'est un chasseur, braconnier, vieux dur à cuire, qui a fait toute guerre, a été au Congo et qui enfin en a vu de toutes les couleurs. Je vais l'envoyer passer une nuit ici. S'il se rencontre avec le fantôme, ça fera du joli. Et alors, je ne donnerai pas deux sous du mystificateur. » Ce matin-là, Hatch, méditatif et songeur, alla frapper à la porte du professeur Bajolin. Celui-ci l'écouta d'un air mi-sérieux, mi-ironique, puis lui demanda s'il avait observé l'écriture du fantôme. « Oui, » dit le journaliste, autant que faire se peut pour une écriture qui flotte dans l'air. En tout cas, on ne saurait dire s'il s'agit d'une écriture d'homme ou de femme. Alors pourriez-vous dire si cela ressemblait à l'écriture du banquier, Ernest Estève? Je ne connais pas son écriture. Tâchez de vous en procurer des spécimens. En outre, voyons, vous dites que l'apparition est toute blanche et lumineuse. Oui, mais éclaire-t-elle? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Eh bien, lorsque, par exemple, vous entrez avec une lampe allumée dans une chambre obscure, elle éclaire les objets qui se trouvent là. Est-ce qu'il en est de même de la lumière de l'apparition? Est-ce qu'elle rend visibles les objets, murs ou portes qui sont dans son voisinage? Absolument pas, répondit Hatch. Elle n'éclaire rien. Je vous accompagnerai là-bas demain soir, conclut le professeur. Le lendemain, ce jour-là, vers midi, Hatch se rendit au bureau du banquier. Eh bien, lui demanda-t-il, avez-vous trouvé votre brave des braves, qui n'a jamais peur de rien? Je l'ai trouvé et il a passé la nuit à la villa. Bravo, et que s'est-il passé? Je préfère qu'il vous le raconte lui-même, il est là, je le fais appeler. Bientôt entra dans la pièce un grand gaillard, montagnard sans conteste, et dont les yeux gris-bleus avaient ce regard de défi des vieux guerriers. Dites donc à monsieur Hatch ce qui vous est arrivé la nuit dernière. L'homme ne se fit pas prier. Lui aussi avait longtemps attendu, puis tout à coup avait aperçu le fantôme droit devant lui. Il s'était rué sur lui, mais au même instant, l'apparition s'était évanouie sans laisser de traces, et il s'était trouvé au milieu d'une des pièces vides du rez-de-chaussée. Comme le journaliste, il s'était précipité au dehors par une fenêtre. Une fois dans le jardin, continua-t-il, je réfléchis, je songeais qu'il n'y avait assurément rien là qui pût m'effrayer, mais j'ai dû rassembler tout de même mon courage pour entrer dans la maison. Je pris une lanterne d'une main, un revolver de l'autre et revins. Je passai par toute la maison et la trouvai parfaitement vide. S'il y avait eu quelque chose, je l'aurais vu et attrapé, mais il n'y avait rien. Alors je me rendis au commun où j'avais déposé une couverture. Je la pris et allai m'installer dans une des chambres des domestiques au-dessus du garage. Il devait être 2 heures du matin, je m'endormis. Tout à coup, je me réveillai avec la sensation que quelque chose se produisait ou allait se produire. Messieurs, je ne suis pas un menteur, et je vous jure qu'alors j'aperçus dans ma chambre un chat, mais un chat fantôme, lumineux comme le spectre, et qui allait et venait. Or, la nuit était noire, il n'y avait pas de lune. Je me levai et me précipitai vers la porte, mais le chat me prévint et sauta par une fenêtre. Je repris ma couverture, j'avais promis de rester toute la nuit. Mais vous voyez, messieurs, que ce n'est pas ma faute si je n'ai pu mettre la main sur quelque chose qui n'existe pas. « Et c'est tout ?» interrogea le journaliste. « Non, attendez la suite. » Je parvins à me rendormir, mais le lendemain matin, en me réveillant, je me trouvais ficelé, garrotté sur une couverture, incapable de faire un mouvement. Après plusieurs heures d'attente et de vains efforts pour me libérer, j'entendis quelqu'un passer dans la cour. C'était le gendarme du village qui venait faire sa ronde quotidienne. J'appelai, il me délia, et nous revînmes ensemble à Forge, où je pris le train. « Voilà, messieurs, toute mon aventure. Je n'ai peur de personne avec qui je peux me battre, mais quand il n'y a rien, c'est autre chose, et je ne désire pas retourner là-bas. » Le jour même, Hatch rejoignit le professeur Bajolin à la gare, et ils prirent ensemble le train pour Forge. Durant le trajet, le savant garda le silence, ce ne fut qu'un peu avant d'arriver qu'il posa quelques questions à son ami. « Avez-vous examiné l'écriture de M. Ernest Estève ?» lui demanda-t-il d'abord. « Oui. Eh bien, qu'en est-il ? » Elle ressemble par quelques points à celle de l'inscription du fantôme, mais par d'autres elle en diffère. Je ne peux me prononcer. Connaissez-vous quelqu'un de sûr qui ait assisté au bal des officiers, où ce cousin du banquier devait aller l'autre soir? Oui. Pouvez-vous lui téléphoner? Assurément. Eh bien, appelez cette personne dès notre arrivée. Dites-lui que moi, votre ami, je voudrais lui parler, et passez-moi la communication. Une demi-heure plus tard, M. Bajolin passait dans la cabine téléphonique du village et causait assez longuement avec la personne appelée par Hatch. Mais lorsqu'il ressortit, il se borna à se frotter les mains pendant un bon moment, en silence. Après quoi, il rentra de nouveau dans la cabine. « Allons maintenant, » dit-il lorsqu'il réapparut. Ils se rendirent ensemble à la villa, mais comme ils atteignaient les limites de la propriété, une idée soudaine parut frapper le professeur. « Oh, dit-il, auriez-vous la bonté de courir au village et de téléphoner à M. Ernest Estève? Demandez-lui s'il a un canot automobile, lui ou son cousin. Nous pourrions en avoir besoin. Et tâchez de savoir dans l'affirmative si ce canot est à pétrole ou électrique. » Hatch laissa le savant au bout du jardin, sur la pointe même du promontoire qui surplombait les eaux du lac. Il parut s'absorber dans la contemplation du paysage. Il n'avait pas changé de position lorsque le journaliste revint. « Eh bien, lui demanda-t-il. Le banquier n'a pas de canot automobile, lui annonça Hatch, mais son cousin, George, en possède un, électrique. Malheureusement, on ne peut l'atteindre pour le lui demander car il est en promenade. Mais M. Estève m'a donné les noms de quelques-uns de ses amis qui en ont un, et si c'est nécessaire, n'importe, n'importe, interrompit le savant. comme s'ils ne prenaient plus aucun intérêt à la question. Ils se dirigèrent vers la villa. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, nous allons trouver les bijoux. Les bijoux disparus autrefois, vous prétendez les retrouver? Assurément. Ils entrèrent par la porte de service. Le savant fit le tour des pièces du rez-de-chaussée et avisa finalement dans l'arrière-cuisine une porte fermée qui donnait accès aux caves. Ils y descendirent. C'était une grande cave d'un seul tenant et qui occupait tout le sous-sol de la villa. Le sol était couvert d'une épaisse litière de débris de toutes sortes et au centre, un massif carré de maçonnerie soutenait les voûtes. Le savant ne perdit pas de temps en exploration vaine. Partant de la porte, il fit le tour complet de la cave en vérifiant la solidité de chaque pierre de taille à la hauteur de son visage. Revenu à son point de départ, il en fit autant autour de la cheminée, puis recommença la même opération en éprouvant cette fois les pierres au bout de son bras tendu. « Oh oh ! » dit-il après ce second tour. « Voyons, vous êtes plus grand que moi, monsieur Hatch. Voulez-vous essayer les pierres plus haut encore ? Essayez d'ébranler quelques moellons de la maçonnerie. » Hatch s'exécuta, il fit un tour complet de la cave, puis vint au pilier central. Là, sur le côté du carré opposé à la porte, il sentit un gros moellon remuer sous la pression de sa main. « Voici une pierre descellée, » fit-il. « Sortez-la. » La pierre vint, après quelques efforts. « Maintenant, allongez le bras dans le trou et cherchez. » Hatch obéit. Il sentit au fond de la petite cavité une planchette qui l'attira à lui. C'était le couvercle d'une cassette de 20 à 30 centimètres de côté. Il s'en saisit et l'attendit au professeur. Mais le bois pourri céda et des joyaux sertis de pierres étincelantes tombèrent à leurs pieds. Hatch ne put contenir un rire nerveux. Comment, après tant de recherches et de bouleversements, la vieille villa venait enfin de livrer son trésor, grâce à la seule logique du savant. C'était merveilleux. Il se baissa et tendit les bijoux à M. Bajolin. Celui-ci les mit soigneusement dans ses poches, puis, avec l'aide de son ami, replaça la pierre dans la cavité qu'elle bouchait parfaitement. Enfin, ils reprirent le chemin du village, mais Hatch, encore tout émerveillé, ne put s'empêcher de questionner le savant. « Comment avez-vous deviné ? » fit-il. « Je n'ai pas deviné. J'ai additionné deux et deux, et j'ai trouvé quatre, » grogna le professeur, qui ajouta, après un instant de réflexion, « Ne parlez à personne de notre trouvaille avant que je vous y autorise, n'est-ce pas ?» Hatch promit aisément. Certes, il n'en soufflerait mot, mais quand il parlerait, ce serait fameux. Il voyait d'avance l'article sensationnel qu'il allait écrire pour son journal. De retour au village, le professeur alla trouver le gendarme. « On dit que vous avez reçu du sang sur la figure l'autre nuit à la Villa Estève. » « Oui, du sang encore tiède. » « Vous vous êtes essuyé avec votre mouchoir ?»« Oui. » « Vous avez encore ce mouchoir ?»« Il doit être au lavage. » « Que c'est intelligent, » remarqua M. Bajolin. « Il se peut qu'un crime ait été commis, et les seules traces qui en restent, ces taches de sang, on les met au lavage ?» Le gendarme s'alarma. « Je vais vite voir si je peux le retrouver, » dit-il. Il revint au bout d'un moment avec le mouchoir tout maculé. Le professeur s'en saisit et entra chez le pharmacien du village. Il causa un moment avec lui et disparut dans son laboratoire où il resta plus d'une heure. Lorsqu'il en ressortit, il revint à l'hôtel et demanda l'horaire des trains. « Je vois, » dit-il à Hatch, « qu'il y a un train qui arrive à 9h30. Voudriez-vous télégraphier à M. Ernest Estève pour le prier de venir ici par ce train? Dites-lui que c'est très important. » Au lieu de télégraphier, Hatch téléphona au banquier qu'il savait trouver à son cercle, à cette heure-là. M. Estève répondit qu'il avait des engagements pour la soirée, mais qu'il se dégagerait et viendrait tout de même. Pendant que le journaliste téléphonait, le professeur tint une conversation animée avec le gendarme qui paraissait tout excité. « Pas un mot à personne, » lui recommandait encore M. Bajolin lorsque Hatch revint. « Je vous le promets, » fit le gendarme. Le professeur et le journaliste soupèrent ensemble en silence. Une seule fois, Hatch se permit une remarque. « Vous m'avez recommandé d'examiner l'écriture de M. Ernest Estève. » Mais puisqu'il se trouvait avec le gendarme et moi l'autre soir, lorsque le fantôme parut, il est tout à fait impossible. « Ne dites pas cela, » grogna le savant, « rien n'est impossible. Je voulais simplement vous faire observer qu'il était avec nous. Bon, cette histoire de fantôme aura son dénouement cette nuit, croyez-le. » Le banquier Ernest Estève arriva, comme convenu, par le train de 9h30 du soir et eut une courte conversation particulière avec M. Bajolin, après quoi, au grand étonnement de Hatch, il les laissa. Par contre, le gendarme se joignit à eux. « Prenez un revolver, lui dit M. Bajolin, cela peut être utile. » Enfin, le professeur, Hatch et le policier se mirent en route. La nuit était complètement obscure et ils ne voyaient pas à deux pas devant eux. Le professeur avait pour toute arme un marteau qu'il avait emprunté à l'hôtel. Enfin, ils virent se dessiner vaguement devant eux la forme de la villa. À tâtons, ils trouvèrent la porte de derrière et entrèrent dans la cuisine. Hatch indiqua dans l'ombre le point des escaliers d'où il avait vu deux fois le fantôme. « Bon, lui dit le professeur, je reste là, mais vous-même tenez-vous, je vous prie, dans le salon là-bas, et ne bougez pas. » Ainsi postés, ils attendirent quatre longues et mortelles heures. Hatch entendait dans le silence absolu son cœur battre furieusement. Il eût voulu pouvoir apercevoir au moins son ami ou quelque chose, mais non, rien qu'une obscurité épaisse et lourde. De son côté, le professeur Bajolin se tenait parfaitement immobile sur l'escalier, son petit marteau à la main. À la fin, il entendit ou crut entendre un très léger bruit, presque un rien. C'était comme un glissement, un craquement faible et court. Le savant se dressa, prêt à l'action. Alors apparut la forme humaine et lumineuse. Se trouvait-elle dans le hall ou dans la bibliothèque? Il n'aurait pu le dire. Il la considéra sans crainte ni tremblement. Elle s'agita, se précisa, brandit un poignard lumineux, puis de l'autre main elle écrivit comme en l'air des lettres qui s'assemblèrent pour former le mot « mort ». Ensuite, un ricanement étrange et diabolique retentit, mais rien de tout cela n'émut le professeur Bajolin. Il souriait d'un air amusé et sceptique. À la fin, il se mit à genoux et rampa lentement, doucement, sans faire le moindre bruit, vers le bas des escaliers et la porte du hall. Hatch, ignorant les faits et gestes du professeur, attendait. Et soudain, l'événement se produisit. Un bruit de verre brisé retentit, clair et vibrant, et tout disparut. Puis, quelque part dans la maison déserte, des pas pressés s'entendirent. Au bout de quelques secondes, le journaliste perçut un appel, à voix basse. « Monsieur Hatch, disait le professeur, venez !» Le journaliste fit un pas en avant, mais au même instant, une masse s'abattit sur sa tête. Il vit 1000 points lumineux et s'affaissa. Il perdit connaissance, pas assez pourtant pour ne pas entendre au loin un bruit de revolver. Lorsque Hatch rouvrit les yeux, il aperçut le professeur qui se penchait sur lui, une allumette enflammée à la main, et lui tâtait le pouls. « Qu'est-il arrivé ? Comment vous sentez-vous ? » répondit M. Bajolin. « Oh, ce n'est rien, » fit le journaliste en recouvrant ses souvenirs. « Mais le fantôme ! Venez, sortons, » dit le savant. « Il y a un blessé là-bas. » Ils sortirent à tâtons de la maison et l'air frais de la nuit acheva de remettre Hatch sur pied. Le ciel s'éclairait un peu et les nuages vers l'orient laissaient filtrer une vague lueur lunaire qui s'épandait sur les eaux. « Qui est-ce qui m'a attaqué et frappé ?» demanda Hatch. « Le fantôme. Mais je crois qu'il a reçu une balle dans la peau. » Alors le gendarme sortit de l'ombre des arbres et cria « Qui va là ?» Le professeur Bajolin et M. Hatch. Tout va bien, annonça le policier. L'homme a cherché à s'enfuir par la porte de derrière, mais je l'avais refermée à clé. Alors, il a passé par la grande porte où l'attendait M. Estève. Il l'a menacé de son poignard, mais M. Estève a tiré, et je crois qu'il lui a cassé un bras. M. Estève le surveille, là-bas. M. Bajolin se tourna vers le journaliste. Puisque vous allez bien, lui dit-il, attendez-moi ici avec le gendarme. Peut-être ce blessé demande-t-il des soins. Vous savez que je suis médecin. Ne venez pas à moins que je ne vous appelle. » Le journaliste et le gendarme attendirent longtemps. Un bruit de voix s'entendait au bord de l'eau et une petite lumière s'agitait entre les branches. Au bout d'une demi-heure, cependant, la lumière disparut. On entendit une trépidation de moteur et un canot, sorti de l'ombre, s'avança en plein eau. Hatch ne put se contenir davantage. « Tout va-t-il bien là-bas » cria-t-il. « Tout va bien !» répondit une voix. Il y eut encore un long silence, puis enfin le professeur Bajolin et le banquier Ernest Estève émergèrent de la crête de la falaise. « Où est l'homme ?» s'exclama le journaliste. « Oui, où est le fantôme ?» lança le gendarme. Il s'est échappé en canot, répondit le banquier. Échappé? Oui, échappé, grogna le professeur. Monsieur Hatch, rentrons à l'hôtel. Vivement désappointé, Hatch se remit en route avec les autres. Le gendarme paraissait également fort déçu. Enfin, ils arrivèrent au village et souhaitèrent le bonsoir au policier ahuri. Les trois citadins se firent donner alors un petit salon particulier, et là, autour d'un punch fumant, s'expliquèrent enfin les événements de la nuit. Ce fut naturellement le professeur Bajolin que l'on interrogea. Il s'assit commodément dans un large fauteuil, réajusta ses lunettes et, les yeux au plafond, dit d'abord « Monsieur Estève, vous savez, n'est-ce pas, que je ne me suis mêlé de toute cette affaire que pour tirer d'embarras mon ami Hatch ?»« Certainement, répondit le banquier, et je me bornerai tout à l'heure à lui demander une faveur. Mais maintenant, expliquez-nous. » Monsieur Bajolin reprit alors sa voix bourrue. « Voici, Monsieur Hatch est venu me trouver un beau matin. Il était dans un état de dépression nerveuse qui me surprit, car je sais qu'il est homme de bon sens et de sang-froid, et qu'il ne s'étonne pas pour des bagatelles. Ce qu'il me raconta me parut donc digne d'attention. Monsieur Hatch avait vu, comme d'autres avant lui, un fantôme qui se tenait dans le salon, près de la porte de la bibliothèque, ou dans la bibliothèque, près de la porte du salon. Il ne savait exactement. Ce n'était en tout cas pas loin de la grande baie qui sépare ces deux pièces. Il avait entendu un léger bruit ou crissement qui avait précédé de peu l'apparition. On eût dit la fuite d'un rat sur le plancher. Mais la maison était inoccupée depuis plus de 5 ans. Or, nous savons que les rongeurs domestiques restent rarement dans une maison vide. Qu'était-ce donc que ce léger grattement? Était-il produit par l'apparition? Mais comment? Maintenant, il n'y a qu'une substance lumineuse qui n'éclaire pas, ou presque pas autour d'elle, et c'est le phosphore. Le phosphore mélangé avec une sorte d'argile, de la glycérine et quelques autres ingrédients chimiques compose une substance brillante, qui ne se consume pas, mais qui répand encore l'odeur caractéristique du phosphore à 7 ou 8 mètres. Je demandai à M. Hatch s'il avait perçu une odeur particulière. Il me répondit que non. J'avais donc réuni déjà plusieurs faits. Le léger grincement précédant l'apparition, l'emploi probable du phosphore, l'absence d'odeur, même à 3 mètres du fantôme. Or, 2 et 2 font 4. Si M. Hatch avait passé si près du fantôme, porteur de phosphore, et ne l'avait pas senti, c'est que l'apparition ne se trouvait pas réellement là. Ce pouvait en être la simple image. Le reflet. Bon. En outre, M. Hatch vit un doigt de fantôme écrire des lettres lumineuses comme sur rien, en l'air. Ceci corroborait l'hypothèse qu'il s'agissait d'une simple image, que M. Hatch ne voyait pas les lettres, mais leur réflexion. Une autre preuve me fut fournie par le fait que le fantôme disparut par moitié lorsque mon ami se précipita sur lui. Rappelez-vous enfin qu'à la place où il croyait voir l'apparition, il ne trouva que le vide. Évidemment, ces images, ou réflexions de l'objet, se faisaient sur une glace. Mais puisqu'à l'endroit où se tenait l'image, il n'y avait rien, et que cela se trouvait être la place d'un passage, où il y avait eu autrefois une porte à glissière, instantanément je songeais à un miroir ou à une glace qui sortait ou rentrait à volonté, qui, en un mot, remplaçait la porte absente. Ainsi s'expliquait l'image et sa disparition subite. Ainsi encore, je comprenais que M. Hatch ne trouva rien et entendit un léger bruit avant d'apercevoir le fantôme. La glace pouvait être actionnée de loin pour disparaître dans la paroi. Est-ce clair? Parfaitement, dit M. Estève. Oui, continuez, dit Hatch. M. Hatch m'ayant dit qu'il y avait d'autres grandes glaces dans le salon et la salle à manger, et m'ayant indiqué leur position respective, je compris comment pouvait opérer une personne placée bien loin du hall et recouverte pour la circonstance d'une pèlerine blanche, enduite d'une substance phosphorescente. Donc, en principe, j'expliquais l'apparition. Mais quel était le but de l'opération? Une plaisanterie? C'était possible. Mais alors, pourquoi avait-elle commencé dès que des ouvriers étaient venus travailler à la villa? Avait-on le projet d'empêcher ces travaux? J'en étais là lorsque M. Hatch me parla de la vieille histoire des bijoux, et mon attention se concentra sur cette explication. Les bijoux étaient-ils encore cachés dans la vieille maison? Quelqu'un supposant cela ou ayant des raisons de le croire, Cherchait-il à empêcher l'exécution des réparations commandées par M. Estève, et par là à l'empêcher, lui, de venir habiter la villa? Et le moyen trouvé était-il de faire apparaître ce fantôme? Peut-être. C'est pourquoi j'ai prié M. Hatch de faire une enquête aussi complète que possible sur l'ancienne tragédie dont la villa avait été autrefois le théâtre. Ce qu'il me dit me confirma dans mon opinion, et aussitôt je pensai que votre cousin, Georges, M. Estève, pouvait fort bien avoir conçu et exécuté ce plan machiavélique, car il fallait que ce fût quelqu'un de très au courant de l'histoire de la famille, en même temps très intelligent. Eh bien, messieurs, vous savez que Georges Estève prétexta un bal d'officier pour ne pas se joindre à vous lors de votre première visite nocturne. Or, il ne s'est pas rendu à ce bal, j'en ai acquis la certitude tout à l'heure en téléphonant à quelqu'un qui y a passé toute la nuit. Donc, il avait donné un prétexte. Il avait été libre ce soir-là. Il pouvait fort bien avoir joué le personnage du fantôme. En outre, considérant l'emplacement de la villa isolée sur un petit promontoire au bord du lac, je songeais qu'il était extrêmement facile d'y parvenir avec un canot automobile dissimulé sous les buissons de la rive et de le sortir sans être vu des habitants du village. Qui donc parmi les plus proches membres de la famille possédait un canot automobile? Ici encore, la réponse était Georges Estève. Dès lors, tout me parut clair. Je savais que c'était le fantôme. Comment il s'y prenait pour apparaître et disparaître? Quel était son but? La recherche des bijoux. Je savais, ou croyais bien savoir, qu'il avait intérêt à faire tout cela, et qu'il était à même de l'exécuter. Il ne me restait plus qu'à trouver une preuve de ce que je considérais comme probable, et la meilleure preuve consistait à trouver moi-même les bijoux. « Trouver les bijoux ? » s'écria M. Estève d'un air incrédule. « Les voici, » dit le professeur en sortant les joyaux de ses poches. M. Estève restait pétrifié et ne trouvait pas une parole. Enfin, les traits contractés, la voix tremblante, il bégaya. « Mais comment avez-vous fait ? Où les avez-vous trouvés ?»« Je me suis servi de ma seule intelligence, » dit le savant. « Je suis allé les chercher là où, selon toute probabilité, leur possesseur d'autrefois avait eu la sagesse de les mettre. « Mais, » balbutia le banquier. « C'est bien simple. L'homme qui les avait déposés là ne voulait pas s'en séparer pour de longues années. Il ne les avait donc pas enterrés. Il ne les avait pas placés dans une pièce où un incendie aurait pu éclater. Donc, il les avait mis à la cave. Où, dans la cave ? Dans le mur. Cela saute aux yeux. Ou, dans le mur, pas trop bas, afin qu'au hasard des manutentions qui pourraient s'y faire, on ne risquât pas de les trouver. À hauteur d'homme, pensais-je. Je ne me trompais pas de beaucoup, puisque M. Hatch, qui est un peu plus grand que moi, a trouvé très vite la pierre descellée qui abritait la cachette. M. Estève restait confondu et les yeux pleins d'une admiration immense. Une fois les bijoux retrouvés, reprit imperturbablement le professeur, il n'y avait plus qu'à dévoiler le truc du fantôme. Je vous priais de venir, monsieur Estève, parce qu'en somme, il n'y avait aucun délit à reprocher à l'opérateur et que je préférais vous l'abandonner une fois qu'il serait découvert. Je vous demandais de rester hors de la maison, je me postais moi-même sur l'escalier avec un marteau à la main. Lorsque le fantôme parut, je me glissai à pas de loup jusqu'à la porte à glissière, sentis du doigt qu'en effet, une grande glace occupait cet emplacement et la brisait d'un coup de marteau. Le bruit du verre effraya l'homme qui opérait. Il voulut s'enfuir par la porte de service, mais le gendarme l'avait fermée à clef à l'extérieur. Alors, il se rua vers la porte principale, se heurta en passant à M. Hatch et lui asséna un coup sur la tête. Une fois hors de la maison, il se trouva nez à nez avec vous, M. Estève, chercha à vous poignarder et... « Et je dus tirer un coup de revolver pour défendre ma peau, » dit le banquier. « Ma balle lui a cassé un bras. »« Fracture simple, » dit le savant avec bonhomie. « Son bras se raccommodera presque tout seul. Et peut-être que quelques années de voyage en pays lointain lui feront grand bien, si vous voulez bien les lui payer en échange des bijoux. »« Je pensais à cela, » répondit le banquier. « Cela arrangera tout, car je ne puis naturellement le poursuivre en justice. » « C'était donc... » Fiatch, c'était mon cousin, Georges, dit tristement M. Estève, et je vous serai infiniment reconnaissant, M. Hatch, de ne pas donner ce nom dans les journaux. Je vous le promets. dit solennellement le journaliste. Mais voyons, monsieur Bajolin, il y a une chose que je ne m'explique pas encore bien. Où se tenait la personne qui jouait le rôle du fantôme? À la porte de l'arrière-cuisine, d'où il pouvait facilement fuir. En s'avançant sur seuil, il avait devant lui, à travers la cuisine même, une des glaces de la salle à manger. De cette glace, son image était reflétée sur une glace du salon et de là, sur le miroir à glissière. Mais comment, après cette triple réflexion, l'image de l'écriture n'était-elle pas renversée? Il l'avait préparée renversée sur une plaque de verre et elle se dressait à la troisième réflexion. Et le sang que le fantôme jeta à la figure du gendarme, c'était du sang de lapin. Le fantôme voulait à toute force effrayer les villageois, vous comprenez? De même pour l'apparition du chat qu'on avait enduit de cette substance phosphorescente. Et enfin, c'est le fantôme lui-même qui garrotta votre homme, monsieur Estève. Le professeur se tut, monsieur Estève et Hatch fumaient nerveusement cigarette sur cigarette. Enfin, monsieur Bajolin se leva et souhaita une bonne nuit à ses amis. Monsieur Estève le remercia chaleureusement et se retira. Hatch allait le suivre, mais une réflexion le retint. Il rappela le savant et lui dit « Comment donc se fait-il que le coup de revolver du gendarme n'ait pas atteint et brisé la glace mobile ?»« Votre gendarme, si brave, est un homme nerveux et impressionnable. Il a tremblé comme une femmelette et sa balle est allée se loger dans la boiserie à côté. Je l'ai retrouvée. Tenez, la voici. Bonsoir. » Ici se termine Le fantôme de la Villa Estève de Jacques Heise Futrelle, enregistré par Christiane Johann.